Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien de 100 titres enregistré au Centre Pompidou. Pour ce nouvel épisode, nous recevons l'artiste plasticien Benjamin Sabatier. Bonne écoute.
Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel enregistrement de 100 titres. Petite présentation de 100 titres vite fait du coup.
Tout de même,
c'est que 100 titres en fait vient un petit peu de la volonté de parler, de présenter ce qui est vraiment le métier d'artiste et de sortir un petit peu de son romantisme pour parler plus concrètement de ce que ça représente, de ce que c'est, de comment naissent les pièces, comment parfois même elles sortent d'un corps de travail, et puis comment on fait, quoi. Comment est-ce qu'on a un atelier, comment ça se passe, comment on paye son loyer, comment on vit, voilà, quand on est artiste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons Benjamin Sabatier. Merci d'être là. Bonjour Benjamin.
Bonjour Benjamin. Deux, trois mots rapidement. Tu es artiste sculpteur principalement.
Oui, pratique orientée sculpture.
Oui. Tu es agrégé d'art plastique en 2010. Tu soutiens une thèse de doctorat intitulée L'art à l'épreuve du travail entre représentation et processus, économie, politique, utopie. Tu es également maître de conférence à l'école des arts de la Sorbonne. C'est toujours.
Oui, d'actualité.
Bon. Ouais. Ton travail est présent dans de nombreuses institutions publiques et collections privées. Il se compose principalement de volumes. Grosso modo. Est-ce que tu veux rajouter peut-être quelques mots sur la nature peut-être un peu politique qu'on retrouve souvent dans ton travail ou les réflexions
Surtout sur mes activités aussi et qui concernent aussi l'actualité de mes activités. Je dirige avec Dominique Blais, plasticien, et Véronique Verstrat, plasticienne, la galerie Michel Journiac. C'est le centre d'art contemporain de l'Université de Paris 1.
D'accord.
Qui se trouve au centre Saint-Charles, dans le 15e arrondissement, et qui fait partie des multisites universitaires de l'Université de Paris.
Ok.
Voilà. Et on fait une programmation annuelle et on s'occupe. On n'est pas commissaire d'exposition, mais on dirige la structure et on émet des hypothèses et des projets pour les universitaires, mais aussi à destination des étudiants. Et là, on expose la semaine prochaine Michel Parmentier, par exemple, et on ouvre jeudi prochain. Une grosse exposition très théorisée sur Michel Parmentier.
D'accord.
Et on vient de finir une exposition sur Léa Loublin et on invite des commissaires étrangers et on travaille là-dessus. En plus de notre travail artistique personnel,
d'accord,
de nos cours et du laboratoire de recherche à l'université.
D'accord. Ouais. Un programme, un agenda chargé.
Exactement.
Est-ce que dans un premier temps, tu veux bien revenir sur tes études et nous expliquer l'importance ou non qu'elle a eue sur ton parcours ?
C'est une importance assez grande parce que, sorti du lycée où j'ai fait une option art plastique, je voulais m'orienter plutôt vers une école d'art. Et en fait, j'ai un peu suivi le programme familial. Mes parents sont issus des Beaux-Arts, tous les deux. Ils étaient aux Beaux-Arts de Marseille dans les années 70. C'était tous les deux des élèves de Claude Viala, entre autres. Et en fait, mon désir de devenir plasticien est arrivé très, très tôt dans mon enfance. Alors, je ne suis pas le seul enfant. On est quatre enfants dans la famille. Je suis le seul qui avait un peu ce désir de me tourner vers la question de la création. Et mes parents m'ont plutôt déconseillé de partir en école d'art. Mon père était encore enseignant aux Beaux-Arts en céramique. Et après, il est parti, lui, dans l'éducation nationale. Et tous les gens qui entouraient le giron familial étaient des artistes. Ils étaient tous profs. Un prof aux Beaux-Arts, souvent, ou prof dans l'éducation nationale. Et n'ayant pas une famille qui pouvait me permettre de pouvoir me lancer directement dans la création pour pouvoir payer mon loyer, j'avais besoin de me diriger très rapidement vers des études qui allaient me permettre de pouvoir avoir un métier salarié pour pouvoir commencer ma production artistique. Donc, j'ai orienté plutôt mes études en écoutant mes parents. Donc, enfant en modèle. Et je suis parti à l'université pour pouvoir avoir accès au concours de l'éducation nationale. Donc, j'ai fait tout mon parcours universitaire.
D'accord.
À l'université de Rennes 2. J'ai eu l'obtention d'un Master 2 et après, je suis parti en prépa agrégation et j'ai passé l'agrégation que j'ai eue tout de suite. Okay. Et à ce moment-là, j'ai reculé mon intégration à l'éducation nationale parce que c'est un droit en m'inscrivant en thèse de doctorat. Et je suis rentré dans l'éducation nationale en 2001. Et j'ai été muté tout de suite dans l'académie de Créteil. Donc moi, ça me permettait d'arriver aussi sur Paris, hein, venant de Bretagne. Et dans l'académie de Créteil, bah, j'ai commencé à faire mes armes. Et très rapidement, en fait, j'ai fait une performance pour l'ouverture du Palais de Tokyo en 2002, qui s'appelait 35 heures de travail et qui était déjà une réflexion sur qu'est-ce que c'est d'être artiste, comment on rentre dans une institution, qu'est-ce qu'on peut y faire dans l'institution. Et en fait, à cette époque-là, je m'étais rapproché du journal Mouvement, qui était plutôt basé sur les arts du spectacle, mais qui avait vraiment une appétence pour la création contemporaine et la performance. Et la rédactrice en chef de la rubrique art contemporain, Léa Gauthier, qui s'occupait de toutes les performances au Palais de Tokyo, m'a invité très rapidement à faire une proposition de performance pour l'ouverture du palais. Et donc, j'ai réalisé une performance que j'ai appelée 35 heures de travail. Et pendant 35 heures, je taillais des crayons 7 heures par jour durant 5 jours. Et tous les jours, je changeais d'espace dans l'exposition du Palais de Tokyo, dans l'exposition d'ouverture. Et à la fin, il y avait 5 chaises disposées dans tous les espaces d'exposition avec un tas de graphite, de papier de graphite disposés au sol. Alors pour moi, il y avait une dimension assez politique, puis assez réflexif aussi sur la question du statut de l'artiste, pour deux raisons. C'est-à-dire que moi, je commençais à avoir une production artistique et tout le monde me disait qu'en fait, je ne travaillais pas parce que j'étais artiste, je faisais ce que je voulais. Enfin voilà, j'étais plutôt libre de mon emploi du temps et de mon activité, alors que j'avais l'impression de passer mes jours entiers et mes nuits à penser à ma pratique, essayer de trouver des perspectives pour pouvoir la présenter, à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir financer ma production. Donc en même temps, j'étais enseignant dans l'éducation nationale en collège. J'ai commencé à la Cité des 4000 à Saint-Denis. Bon, c'était un grand bouleversement pour moi et ça m'a formé aussi politiquement. Ça, c'était assez important. Alors c'est un événement quand même assez particulier à vivre, mais en même temps, ça construit quand même des personnalités. Enfin, ça construit aussi un certain rapport au monde. Et en même temps, j'avais ma production qui commençait donc par le Palais de Tokyo, du coup, avec une visibilité qui était tout de suite présente. Et très rapidement, en fait, j'ai eu accès à une exposition en galerie. Et c'est la galerie Jérôme de Noirmont qui m'a contacté, qui ouvrait un jeune espace galerie à côté de la galerie Avenue Matignon. Et qui m'a proposé de faire un solo show sur projet avec un catalogue d'expositions. Donc ça, c'est un peu les débuts de mon travail. Et à chaque fois, ces expositions-là, c'était un peu des événements, on va dire, assez expérimentaux, dans le sens où le contexte d'exposition que je découvrais, que ce soit la galerie, le musée ou ainsi de suite, et ben je me provoquais chez moi des désirs formels d'intervention et d'actes et d'action. Et donc, par exemple, pour le Palais de Tokyo, Léa Gauthier me donne une carte blanche, me dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» Donc, 35 heures de travail, c'était Martine Aubry qui venait de les faire passer, non, qui les avait fait passer en 99, mais c'était en 2000, à l'ouverture du Palais de Tokyo, que toutes les entreprises passaient aux 35 heures. Qu'est-ce que c'est travailler pour un artiste ? À quoi correspond 35 heures de travail ? Alors, pour l'institution, pour moi, il y avait un rapport un peu critique, dans le sens où, en tant qu'artiste, on est un peu le maillon faible de l'institution, puisqu'on est appelé sur projet, puis après, eux, ils passent à autre chose, et nous, on est tout le temps en train de courir après quelque chose, un projet. Et tailler des crayons, c'est un peu l'image de qu'est-ce que tu fais en entreprise ? Moi, je taille les crayons, en fait, c'est le travail subalterne. Voilà, c'était un peu cette identité-là. Dans le même temps, je voulais que le geste soit commun, partagé par tous, mais avec un geste tellement répétitif qu'on rentre dans une aliénation de la production. Et à la fin, matériellement, il existait 35 heures matérialisées par des tas d'épluchures de crayons. Donc, je les taillais entièrement à la main les uns après les autres, jusqu'au moment où je ne pouvais plus tailler puisque le crayon était trop petit. Donc, je le lâchais au sol et je changeais de crayon au fur et à mesure. Et donc, il y avait tout cette réflexion sur le statut de l'artiste, le statut de l'institution. En plus, j'avais réussi à me faire un contrat, ce qui était assez rare à l'époque, puisque les artistes sont pas payés, à l'époque, n'étaient pas payés pour pouvoir participer aux expositions. Et là, j'avais un contrat de travail au SMIC. Donc, j'étais artiste au SMIC, au Palais de Tokyo, pour l'ouverture, et je taillais des crayons. Voilà, c'était un peu le projet. Après cet événement, Jérôme de Noirmont m'a proposé d'intervenir dans son espace d'exposition qui venait d'ouvrir, qui s'appelait Noirmont Prospect. Et de la même manière, j'ai commencé à travailler sur le contexte d'exposition. Donc, première exposition en galerie. Alors, la galerie, c'est pas le musée. La galerie, il y a une dimension un peu différente du musée où la dimension esthétique prend toute la place dans le musée. Mais dans la galerie, la dimension esthétique est doublée de la dimension commerciale. Du coup, l'œuvre à voir est aussi une œuvre à acheter. Donc, j'ai envoyé un colis directement à la galerie. Alors, c'était une œuvre en boîte, en fait, que j'ai appelée œuvre en kit. Et c'était des milliers de punaises colorées avec un patron, avec un système de montage multilingue, des outils de fabrication. Et c'était, j'ai appelé ça peinture en kit. J'ai créé une fausse société qui s'appelait IBK International Benjamin's Kit, en référence à Yves Klein, avec justement un des artistes qui se posait la question de la commercialisation de l'œuvre. Hein, que c'était très, très, très présent dans l'œuvre de Klein. Et en même temps, de manière ironique, ça dédoublait le mode de fonctionnement des magasins IKEA. Et j'avais repris le logo, voilà, l'espèce d'ellipse comme ça, et je rentrais mon logo IBK. Et ça me permettait en tant qu'artiste aussi de m'effacer derrière peut-être quelque chose qui serait de l'ordre d'une société de commerce. Et on a monté cette exposition-là et j'ai installé avec mes copains de l'époque, enfin certains sont encore des amis, et on a installé 200 000 punaises au mur dans l'espace d'exposition. Et l'espace d'exposition, il y avait des amoncellements de boîtes que les spectateurs pouvaient acheter directement et repartir directement avec les œuvres. Et toutes les œuvres n'étaient pas exposées, donc il devait y avoir 33 modèles, 12 modèles exposés, et le reste était disponible sur catalogue. Et j'avais fait une vidéo de montage de l'œuvre de type Castorama ou BHV quand vous promeniez dans les magasins. Avant, il y avait plein de petites vidéos de démonstration, comment on installe le truc chez soi et ainsi de suite. Et j'avais créé avec un réalisateur, Sébastien Jouy, une mini-fiction qui reprenait les codes justement de ces vidéos commerciales. Donc on avait ça à l'entrée de la galerie, des amoncellements de carton et puis l'espace d'exposition avec une plante verte en plastique voilà, qui agrémentait l'espace de présentation. Et là, les collectionneurs achetaient directement les pièces et repartaient avec. Et c'était ma première expérience. Donc là, le but du jeu, c'était produire une pièce qui avait une valeur esthétique pour moi. Hein. Je suis toujours très sensible à la question de la forme, la couleur, la matérialité. Mais là, qui engageait vraiment une réflexion sur une œuvre d'art qui prenait en compte sa puissance commerciale et du coup, qui prenait aussi en compte toutes les contingences de la commercialisation, c'est-à-dire le lieu de production, le stockage, le transport, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes deux projets qui, après, ont évolué de manière un peu différente. Et j'ai plein de petits projets comme ça dans mon parcours. Donc, j'ai à peu près 20 ans de création, on va dire, avec une visibilité. Et mon parcours est agrémenté comme ça d'expositions qui sont un peu des expositions manifestes, où je me permets de créer des gestes qui me portent, dans le sens où ce sont des vrais questionnements que je vais résoudre par la pratique et la production de formes.
Et aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que tu produis où, là, en ce moment?
Alors, en fait, j'ai un atelier bureau qui est dans le 12e arrondissement. Donc, c'est un appartement-atelier de la ville de Paris. Donc, j'ai fait la demande assez vite et ça fait à peu près 18 ans peut-être que je suis dans cet atelier logement, et qui petit à petit est devenu un espace de stockage, puisque l'atelier se remplit. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des menuisiers, et ça m'a toujours fait rire de la manière dont on travaillait, parce qu'on travaille quasiment de la même manière, sauf qu'un menuisier va produire une forme, et cette forme, elle va partir, elle va jamais revenir.
Oui, oui.
Et nous, on produit des formes, alors on fait beaucoup d'expérimentations, hein, donc il y a quand même quelques déchets à l'intérieur de tout le processus, mais l'œuvre va partir pour une exposition. Et puis, si c'est pour dans une galerie, avec voilà, un peu de chance et pas mal de travail, la pièce elle va partir dans une collection publique ou privée. Et souvent, enfin, il y a quand même la majorité du temps, il y a quand même un grand pourcentage des œuvres qui vont revenir. Et là, d'autres questions se posent. Alors, quand les œuvres partent, on est Moi, je suis extrêmement content. Ça me libère de l'espace pour pouvoir continuer à travailler. Donc, j'en profite. Et quand l'exposition se termine, ben, les pièces reviennent. Alors après, on trouve des solutions parce qu'il y a des galeries quand même qui ont des stockages. Donc, des fois, on fait semblant d'oublier les stockages à long terme dans les galeries en espérant que la galerie continue à survivre et qu'ils ne les vendent pas sans nous en parler. Donc, ça peut arriver. Hein. Bon, ça m'est jamais arrivé réellement, mais... Mais du coup, j'oublie un peu les œuvres dans ces espaces comme ça. Donc, j'ai par exemple un copain qui avait monté une galerie extrêmement intéressante. Lui, il était artiste. Il avait monté un projet qui s'appelait Snap Project à Lyon. J'ai fait une exposition chez lui. Alors, déjà, ça fait peut-être en 2014 ou 2013-2014. Bah, les pièces sont toujours chez lui. Hein, voilà.
D'accord.
Mais il le sait. Enfin, on s'appelle régulièrement et les pièces elles sont au choix encore là dans son garage puisque l'espace d'exposition a fermé.
Voilà. D'accord. Et ça t'arrive de jeter des pièces ?
Alors, normalement, j'essaie de... Alors, on me dit souvent... Alors, hier, on m'a dit encore... j'étais au café avec Thomas Bernard, l'ancien propriétaire de la galerie Cortex Atlético, et qui me disait, mais à un moment donné... c'est peut-être mieux de se débarrasser d'une pièce qu'on va pouvoir reproduire plutôt que payer les stockages. Et la réflexion, elle est intéressante, mais... Dans mon esprit, je me suis dit aussi, mais si la pièce disparaît, quand est-ce que je vais pouvoir la montrer ? Est-ce que j'aurai l'occasion un jour de la reproduire ? Et à mon avis, on ne la reproduit jamais. Si c'est jeté, ça disparaît complètement. Même si on a une photo, c'est qu'une trace dans un parcours. Donc la pièce disparaît. Alors qu'en fait, j'en ai aussi l'expérience des œuvres que j'ai produites il y a 12 ans. 12 ans après, j'arrive à des moments aussi à les vendre. C'est vrai que les gens sont intéressés par des choses qu'ils ont vues anciennement et qui, à un moment donné, demandent si ça, c'est disponible.
En ce moment, tu es avec une galerie, toi ?
Alors moi, j'ai travaillé à beaucoup de galeries parisiennes. Voilà, j'ai commencé avec Jérôme de Noirmont, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, jusqu'à sa fermeture en 2012. Donc, j'ai dû faire 5 expositions personnelles à l'intérieur de ces murs. Après sa fermeture, je suis parti travailler avec Philippe Jousse à Jousse Entreprises pendant 2 ans. Et là, j'ai fait quelques projets, un solo show, une fiac hors les murs, une expo collective. Et après, j'ai arrêté de travailler avec lui. Je suis parti avec Bertrand Grimont, qui remontait sa galerie, qui avait un projet vraiment intéressant et qui est plus de ma génération. Donc, ça m'intéressait. J'avais toujours travaillé avec des générations au-dessus, avec qui j'avais confiance, enfin, qui le travail était bien en place. Mais je voulais aussi me confronter à une génération qui était la mienne pour pouvoir engager aussi une réflexion un peu différente. Donc, j'ai travaillé avec Bertrand Grimont jusqu'au Covid. Il lui a fermé à ce moment-là. Il a fermé pendant 2-3 ans. Là, il a réouvert sa galerie. Et après Bertrand, je suis parti chez Cortex Atlético, donc Thomas Bernard, mais qui a fermé après le Covid, après mon exposition d'ailleurs. J'avais une exposition personnelle et lui, par la suite, a fermé. Lui avait intégré la galerie Xipas en tant que directeur artistique et j'ai fait des projets avec Xipas. Alors, je ne suis pas représenté par Renos Xipas, mais je travaille avec Renos Xipas sur des projets à l'étranger, et notamment en Uruguay, en Grèce. Voilà. Donc là, j'ai plus de représentation à Paris. J'ai travaillé aussi avec, pendant plusieurs années et encore avec Catherine Isère à Saint-Paul-de-Vence. Et j'ai travaillé avec une galerie flamande à Bruxelles et j'avais encore une galerie à Leipzig il y a quelques temps. Voilà. Donc, la route, pas mal. Après, ce sont des rencontres. Hein. Je me suis fâché avec personne. On s'entend vraiment très, très bien. Après, c'est des questions de point de vue, de dynamique, de proposition aussi d'action. Et à un moment donné, si c'est vrai que s'il y a des partenaires extérieurs qui viennent et qui font des propositions à long terme, par exemple, quand moi, j'ai quitté Philippe Jousse, donc je ne suis pas resté extrêmement longtemps. Hein. Je m'entends très, très bien avec lui. Je l'aime beaucoup. Mais Bertrand est arrivé c'est pas un contrat, mais avec une proposition qui était alléchante. C'était 2 FIAC hors les murs, une présence dans son stand à la FIACOF. À l'époque, il y avait la FIACOF. Il y a FIACOF. Voilà. Et c'était donc pour les jeunes galeries. Mm-hmm. Et il me proposait une exposition personnelle tous les 2 ans.
D'accord.
Donc, okay. Là, c'était difficile de refuser parce que le projet était d'envergure. Il y avait vraiment une ligne de conduite.
Et puis à long terme aussi.
Voilà. Et je savais qu'au moins pendant 3 ans, j'étais dans une dynamique avec lui et qu'on allait pouvoir avancer.
D'accord.
Et ça, c'est assez important.
Et l'accompagnement de la galerie aussi, c'est important.
Ouais, totalement.
Sur la production des pièces, enfin pas sur la production financière, mais sur le comme regard sur le travail.
Ah oui, mais alors moi j'ai toujours partagé avec justement mes galeristes une relation très particulière où je suis très à l'écoute. Moi j'aime beaucoup qu'ils passent me voir, qu'on aille déjeuner ensemble, qu'on discute des perspectives, qu'ils regardent mon travail et qu'ils puissent aussi à des moments susciter des développements. Alors souvent, par exemple, je prends l'exemple. Mon premier exemple, c'était Jérôme de Normand, parce que c'est le premier que j'ai connu et à qui je suis resté extrêmement longtemps, jusqu'à sa fermeture en 2012, donc 10 ans de production. Et Jérôme et Emmanuel, ils venaient à l'atelier, ils regardaient partout. Et puis à un moment donné, il y a des choses qui les intéressaient. On disait, ça, c'est en développement. Pour nous, ça, c'est en développement. Ça, par contre, ça nous intéresse. Est-ce que toi, tu es en capacité de produire dans cette dynamique-là pour voir ce que ça donne? Voilà. Et là, selon le projet, il débloquait aussi des moyens financiers pour pouvoir développer sur le long terme. Et après, une exposition arrivait, mais c'était aussi grâce à eux, parce qu'ils avaient vu dans telle ou telle partie de ma production quelque chose qu'eux pouvaient porter, arriver à comprendre et voulaient porter. Mmh. Donc ça, c'était vraiment, enfin, vraiment très, très important. Et j'ai fait le même travail avec Philippe Jousse, le même travail avec Bertrand Gimond, et exactement le même travail avec Thomas Bernard, avec qui j'ai commencé à travailler donc après le Covid, qui passait souvent à la maison pour prendre des cafés et qui, à un moment donné, a vu des petites expérimentations qui avaient été faites pendant le confinement et qui est reparti à un moment donné avec une pièce. C'était des moulages en béton, enfin des moulages de carton. Je moulais du béton dans du carton. Donc on avait l'empreinte du carton, la qualité du carton, mais avec quelque chose d'ordre plus architectural comme ça. Et lui est reparti avec la pièce, il m'a demandé si je pouvais l'emprunter, il l'a emmené à la galerie, il est resté avec pendant plusieurs mois, et puis à un moment donné il m'a appelé, il m'a dit écoute, là on y va, si ça t'intéresse, il faut absolument développer ça, parce que là je le comprends, j'en vois les perspectives, et moi ça m'intéresse réellement de pouvoir soutenir ce projet. Donc à chaque fois c'est un projet, enfin chez Jérôme de Normand c'était différent puisque c'était sur le long terme, c'est un vrai parcours de vie, hein, 10 ans, mais avec les autres c'était vraiment pointer à un moment donné quelque chose que eux pouvaient soutenir et comprenaient totalement et du coup pouvaient se battre, en fait, c'est aussi la question, ils pouvaient se battre aussi pour ce travail-là parce que le portaient aussi de manière personnelle.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, comment tu payes ton loyer, là ?
Alors, je suis maître de conférence à l'Université de Paris 1. Donc là, ce qui me permet aussi de bien séparer ma vie professionnelle, artistique et ma vie personnelle, familiale. J'ai 2 enfants. Et du coup, je sais que ma production artistique ou à un moment donné, si financièrement, il y a quelque chose qui ne se développe pas, je sais que je vais pouvoir survivre avec ce gain universitaire. Alors, je ne change pas tout à fait de casquette. Hein. Je suis dans le milieu de l'art, dans toutes mes activités. Sauf que c'est une sorte de point de pas de côté. Voilà. Et par exemple, à l'université, je suis les projets personnels des étudiants et je les accompagne dans leur production, leur réflexion sur leur production artistique. Donc ça m'intéresse, c'est la transmission en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui m'a toujours porté. Et donc la séparation est vraiment bien ciselée. Mais par contre, ma production artistique est indépendante. Ça veut dire que c'est ma production artistique qui va payer les ateliers, mes déplacements, mes productions. Et je suis autonome. Et là, je travaille avec 3 espaces d'exposition. Alors, j'essaie de réduire au maximum parce que c'est des contingences assez compliquées. Donc, j'avais un atelier à Bagneux pendant plusieurs années avec un camarade menuisier. Et cet espace est devenu un stockage qui est complètement saturé. Et là, je viens de retrouver avec un autre camarade un espace dans le 18e et on est en train de faire les travaux. J'étais encore dans la peinture avant de juste de venir ici vous voir et restructurer l'espace pour faire un espace que de production artistique.
Okay.
Donc là, il n'y aura pas de stockage, il n'y aura vraiment que de la production. Et là, on sera 3, donc mon ami menuisier et Nicolas Fenouilla qui est artiste, plasticien, avec qui on va commencer une collaboration dans cet atelier-là. Et donc, j'ai mon atelier à Paris, dans le 12e, cet atelier-là, dans le 18e, et mes stockages encore à Bagneux. Donc je tourne entre ces 3 espaces-là en ce moment.
Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail secondaire et nous dire un petit peu s'il y a quand même une porosité dans ce qui se passe avec les étudiants et ce qui se passe dans ton travail artistique?
Alors, en fait, la porosité, elle est assez grande parce que, en fait, je suis pas juste enseignant, je suis enseignant-chercheur. Donc, en fait, j'ai deux séminaires de universitaires par semaine. Je donne un cours de création-recherche en licence 3 et j'ai un séminaire de recherche en master 1.
OK.
Voilà. Et du coup, les deux se ressemblent un peu, sauf qu'il y en a un qui est quand même beaucoup plus construit, c'est celui de Master 1, parce que mes étudiants sont plus en demande, ont un travail déjà beaucoup plus abouti, déjà arrivent du monde entier, parce qu'on est aussi à la Sorbonne, donc j'ai des étudiants de toute nationalité. Et là, je les accompagne vraiment pour cibler les enjeux théoriques, critiques, référentiels de leur champ artistique, et je les accompagne dans un parcours pour qu'ils développent leur sens critique et qu'ils puissent à un moment donné construire un univers personnel très identifiable en y ajoutant de la mythologie personnelle, du trauma aussi personnel, en fait toutes leurs histoires pour pouvoir construire au-delà d'un discours une identité. Voilà. Et pour les licences 3, on est encore dans les balbutiements de la création mais aussi de la recherche, et je les accompagne aussi sur des orientations culturelles et théoriques. Du coup, j'ai pas du tout l'impression de faire autre chose. Enfin, c'est très très proche aussi, et ça influence aussi peut-être aussi ma manière de faire, puisque je suis tout le temps confronté à des nouvelles générations, des nouvelles perspectives, des nouveaux points de vue politiques, voilà. Et avec mes étudiants syriens, chinois, coréens du sud, canadiens, turcs, ben voilà, il y a vraiment quelque chose, c'est le monde entier qui est dans le cours, il y a quand même une confrontation assez franche, qui soit de l'ordre du sociopolitique. Et même entre eux, ça porte quelque chose. Voilà. Il y a une sorte de libération, il y a une parole quand même qui s'affronte. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas la même culture, n'a pas les mêmes ambitions. C'est vrai que ni la même religion. Donc là, ça crée des frottements assez tendus et hyper intéressants et riches pour moi, autant pour moi que pour eux.
Voilà. Ni les mêmes attentes de l'art aussi, j'imagine,
en plus. Avec après des perspectives un peu différentes, parce que en fait là ils s'inscrivent quand même dans un milieu d'art contemporain occidental très construit avec une histoire, et quand on est coréen du sud ou chinois ou syrien, on sait pas du tout les mêmes perspectives. Voilà, c'est pas la même connaissance, c'est pas la même construction. Là j'ai une étudiante qui vient d'Erevan aussi, incroyable, et pareil, elle porte quelque chose de différent.
Okay.
Profondément différent. Et donc, je suis aussi enseignant-chercheur. Donc, à côté de cette activité d'enseignement, donc, qui me prend 8 heures par semaine, donc relativement peu, j'ai une activité de chercheur. Et là, on a un laboratoire de recherche qui mélange les philosophes, les historiens d'art, les plasticiens, les cinéastes, voilà, tous les secteurs un peu culturels et critiques. Et là, je suis confronté en fait à mes pairs, aux critiques d'art, aux historiens d'art, aux intellectuels de la culture, et en continu. Et ça, c'est quand même extrêmement riche aussi. Ça veut dire que je ne quitte jamais la réflexion et la confrontation à la création. Même si moi, en tant qu'artiste, avec mon indépendance de ma production, je suis beaucoup plus lié à la question du commerce et de la galerie, du marché, parce que je dois aussi en vivre. En tout cas, je dois faire vivre ma production avec ça. Alors que c'est toute cette dimension-là... disparaissent auprès de mon univers universitaire.
Olivier, il communiquait un petit peu ce truc en disant, en fait, la formation, elle est mal faite. On ne nous apprend pas à devenir artiste, on nous apprend à passer un diplôme, c'est ce qu'il disait il y a 5 minutes. Hein,
ouais.
Toi, est-ce que comment tu es avec tes étudiants, tu leur parles aussi de ce que c'est que justement, tu leur communiques ton expérience d'artiste qui est sur le chemin commercial?
Alors, on en parle. Alors, on en parle seulement si eux se posent des questions par rapport à ça, et du coup, Quand ils ont besoin vraiment de renseignements, moi je leur fais faire des tours de galerie. Hein. Je prends des rendez-vous avec mes camarades galeristes et on fait une fois tous les deux mois une petite visite des expositions. Et je demande tout le temps aux propriétaires des galeries, donc aux galeristes et pas aux directeurs, de venir accueillir les étudiants, de pouvoir leur expliquer eux leur parcours, eux leur métier, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la structure galerie. Après, justement, dans cette dynamique-là, avec Dominique Blais, on a inventé un cours en licence 3 qui s'appelle « Profession artiste ». On ne savait pas comment l'appeler, mais on l'a appelé « Profession artiste ». Et les cours sont donnés par Anou Vincent, qui est critique d'art, pour offrir aussi à tous les étudiants une sorte de panorama de ce que peut être la création pour un artiste, enfin, les différents lieux de création pour un artiste. Qu'est-ce que c'est une résidence ? Qu'est-ce que c'est un frac ? Qu'est-ce que c'est la DRAC ? Qu'est-ce que c'est un centre d'art ? Comment s'est construit un centre d'art ? Qu'est-ce que c'est une galerie d'art ? Et donc, tout le cours, il est construit justement sur une sorte de connaissance, enfin, de découverte de ce que peut être l'univers, le réseau artistique. Ouais. Et en fait, tous les étudiants sont extrêmement friands de ce cours. Alors, il n'y a pas assez de place parce qu'on n'a qu'un seul cours sur deux semaines, donc on peut accueillir 60 étudiants dans l'année sur dans cette dynamique-là. Mais ce qui ouvre des perspectives, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de cours sur qu'est-ce que c'est justement tous ces réseaux artistiques qui existent et comment on peut les atteindre. Déjà, en prendre connaissance, c'est énorme. C'est déjà énorme.
Oui, déjà savoir que ça existe. Oui, ça.
Et nous, en tant qu'artistes, Dominique et moi, et même tous mes collègues, on l'a appris au fur et à mesure, dans la rencontre, la confrontation. Ah, ben, une résidence, c'est quoi ? Alors, aujourd'hui, ça prend une ampleur, enfin, c'est assez médiatisé, la question de la résidence d'artiste. Mais moi, dans ma génération, ça existait très peu ou c'était pas visible. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'en avais pas connaissance. Et donc là, c'est quand même important de voir qu'il y a justement plusieurs acteurs et qui situent à différents endroits aussi de la création. Et qu'on peut être artiste sans passer par le marché, en faisant que des résidences, des appels à projets, du 1%. Et il n'y a pas une manière. C'est pour ça que je disais que c'est pas un métier artiste, parce qu'il n'y a pas une manière d'être artiste. Il y a autant de manières d'être artiste qu'il y a de personnes. Voilà. Et donc c'est à nous aussi d'inventer. C'est à mes étudiants, mais c'est à moi aussi en tant que plasticien d'inventer ma manière de vouloir être artiste aussi. Il n'y a pas des obligations. Parce que s'il y avait des obligations, il y a toujours des moments où on serait dans les choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Et on est déjà tellement confronté seul dans son atelier à essayer de produire des choses, maintenir des formes. Si en plus, à côté, les contraintes elles deviennent énormes, ça va devenir assez compliqué. Alors après, il y a des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ? Est-ce qu'on veut vivre de sa pratique ? On veut devenir multimilliardaire ? Enfin, peut y avoir plusieurs objectifs. Est-ce qu'on veut devenir célèbre ? On peut être un super artiste sans avoir besoin d'une grande médiatisation. On peut vendre son travail sans passer par la galerie. On peut faire plein de choses un peu différentes. Après, il y a tout un univers qui nous est presque imposé aussi. À un moment donné, vous dites, voilà, il y a la galerie d'art et puis il faut être dans telle ou telle galerie d'art pour avoir accès à tel ou tel collectionneur et maintenant, peut-être à telle ou telle institution, parce qu'on voit que les croisements entre institutions publiques, institutions privées et les gros acteurs du marché de l'art, mais il y a quand même des liens extrêmement forts. Parce que quand des galeries sont en capacité de produire des expositions et que l'institution n'est plus en possibilité financière de le faire, bah forcément, les artistes de ces galeries-là ont une chance supplémentaire d'accéder à des expositions institutionnelles. Ça, c'est la question de l'argent, elle devient assez primordiale.
Mais même dans la... Enfin là, tu nous as gentiment amené ton dernier livre. Je trouve l'édition, c'est un bon exemple de ça. C'est vraiment dans la production, dans la manière de travailler, l'argent, c'est central dans la création artistique. Ouais. Même, enfin, je veux dire, là, par exemple, ton livre, il y a... Les cahiers, le papier qui est utilisé, il y a parfois des économies qu'on fait qui donne justement, qui aide, qui accompagne un geste artistique. Et si tu avais des finances infinies pour faire ton livre, enfin, les gens qui ont réalisé le livre avaient eu des finances infinies, ils n'auraient pas forcément fait ça. C'est la contrainte qui
ouais,
la contrainte financière, enfin, la contrainte, oui, peu importe, quelle qu'elle soit, qui crée...
Non, mais qui existe même dans un atelier. À un moment donné, l'atelier, quand j'ai commencé à faire mes œuvres en kit, mon atelier, c'était mon appartement et je vivais dans un T2. Et du coup, c'est aussi la contrainte d'espace qui m'était donnée qui m'a permis aussi de penser l'œuvre de manière différente. Voilà, c'est que l'espace de production devait être réduit, donc l'œuvre elle devait être pas construite, ouais. À construire sur place. Voilà, c'était un peu la dynamique. Mais pour le livre, on peut revenir, par exemple, donc là, c'est un peu le livre de mes 20 ans de création. Il n'est pas si grand, il n'est pas grandiloquent. Il y a quand même, pour parler des chiffres, 25 000 euros de production. Ça paraît énorme, mais en fait, il a pu se faire de manière extrêmement simple. J'ai participé à la demande la première monographie à la DAGP, qui offre chaque année 15 000 euros pour pouvoir produire cette première monographie. Et elle demande dans le dossier quels seront les financiers extérieurs qui vont pouvoir aider à compléter ces 15 000 euros pour pouvoir arriver au budget total. Et donc, l'éditeur, là, c'est les éditions Anamosa, eux, ils sont dans une dynamique d'édition, mais pas dans une dynamique financière. Et donc, du coup, eux, on n'avait pas d'argent à mettre dedans. Par contre, on portait le projet. Et j'ai demandé, je suis allé chercher, moi, trois collectionneurs. Frédéric de Goldschmidt, qui a un centre d'art privé à Bruxelles qui s'appelle Cloud Seven, qui a financé une partie aussi supplémentaire du livre. Serge Carrasco, qui a aussi un centre d'art à Bruxelles, le centre d'art s'appelle Elevenstein, qui a financé une partie aussi du catalogue. Et la fondation d'entreprise Raja, par la PDG Markovici, qui aussi a financé une partie du catalogue. Alors, je ne les ai pas appelés, je les connaissais tous. Mmh. Très bien, parce que en fait, ce sont aussi mes collectionneurs et plusieurs des œuvres qui sont justement reproduites dans le livre appartiennent à leur collection. Mmh. C'est pas une, hein, c'est plusieurs. Donc, ça permettait pour eux de valoriser leur collection, en même temps d'avoir des livres gratuits à distribuer aussi à leurs amis, et en même temps content de m'accompagner aussi dans la perspective de mon projet. Voilà.
Et du coup, continuons de parler de l'économie de ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as été payé, toi, pour ce livre ?
Alors, j'ai été payé en droit d'auteur, parce qu'à la fin, une fois que l'édition est terminée, la maison d'édition doit reverser une certaine somme à la DAGP, qui a donné de l'argent, et une certaine somme qui sont les droits d'auteur et l'image de l'ensemble des reproductions. Donc, eux ont payé, je crois, à peu près 3000 euros à la DGP pour avoir le droit de diffuser le livre, alors que la DGP leur avait donné l'argent. Et après, cet argent-là m'est revenu en droit d'auteur par la DGP, reversé en fin d'année.
D'accord.
Voilà. Donc, j'ai été payé par...
via les droits d'auteur.
Ok, via les droits d'auteur. Exactement. Ok, très bien, très bien.
Et après, moi, le but du jeu, c'était pas de gagner de l'argent. Le but du jeu, c'était que ça existe et que ça me coûte rien.
Ouais.
Voilà. Okay. Ça, c'est toujours important. Je veux bien que les choses existent, mais il ne faut pas que ça coûte.
Oui, c'est ça, quand tu disais les deux économies sont vraiment séparées entre mon activité universitaire salariée.
Oui, ma vie personnelle et mon activité artistique.
Elle est vraiment autonome. C'est-à-dire que jamais il y a de passerelle d'argent de l'un vers l'autre, etc.
Il peut y avoir plutôt du côté artistique qui vient s'intégrer dans ma vie familiale. C'est plutôt dans cette dynamique-là.
D'accord.
Mais c'est jamais l'argent de mon travail universitaire qui va être injecté dans l'artistique. Ça,
d'accord. Ouais. C'est une règle que tu t'es donnée
ou... Oui, pour protéger aussi ma famille, aussi mon quotidien, et aussi mon mode de vie. Ouais. C'était vraiment très important. Ouais. Parce que j'ai vécu aussi dans une famille de plasticiens et que les fins de mois étaient difficiles, que le portefeuille, il était souvent quand même vide assez rapidement dans le mois. Et j'ai vu que tous les amis artistes étaient dans cette dynamique-là.
Ouais.
Une collègue qu'on croisait souvent aux Beaux-Arts du Mans, c'était Gina Pan. Elle est dans l'histoire de l'art. Elle est collectionnée par les institutions. Elle avait besoin d'être prof. Elle était prof aux Beaux-Arts du Mans parce que le salariat de l'école des Beaux-Arts lui permettait de vivre. Mmh. Et voilà, c'est pas parce qu'elle était célèbre qu'elle n'avait pas besoin de pouvoir... elle avait besoin d'un travail salarié, mais comme beaucoup. Hein. Et je voyais, alors c'est pour ça aussi, moi, dans mon histoire, j'ai toujours eu l'impression que les artistes, ils devaient être enseignants. Quand j'étais gamin, tout le monde était artiste autour de moi.
Et tout le monde était enseignant.
Et tout le monde était prof, voilà. Mes parents étaient élèves de Claude Viala. Alors Claude Viala, il est dans l'histoire de l'art, il est encore vivant, il a une grosse production artistique. Mais à l'époque, il était quand même enseignant. Alors il peut y avoir plusieurs dynamiques, soit parce que c'est une ambition politique de devenir enseignant et d'être dans la transmission, pour pouvoir aussi imposer quelque chose, mais c'est aussi une possibilité de continuer sa production artistique sans avoir besoin.
Un peu de temps
et... Exactement, oui. Ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, on pourrait imaginer que j'ai plus forcément besoin d'être enseignant pour pouvoir. Mais les choses sont ainsi faites que, de toute façon, les multiples activités ne viennent pas se confronter. Et en fait, j'arrive à faire l'ensemble des activités de manière extrêmement libre. Mmh. Voilà. Et que ça ne me pose pas de problème d'emploi du temps. On pourrait imaginer que ça puisse poser des problèmes, mais ça c'est pas le cas.
Comment une envie arrive? Comment tu commences un travail? C'est quoi? Où est-ce que tu vas quand tu as une intuition? Où est-ce que tu vas chercher ça part d'où? Et puis c'est quoi le chemin jusqu'à la production?
Alors c'est une question assez complexe parce que en fait. Ma production, elle est multiple parce qu'elle s'étire dans le temps. Et du coup, c'est plutôt un parcours et que les choses évoluent. Il y a des choses qu'on produit à un moment donné, une certaine manière de faire qui vient s'effacer, se transformer. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On arrive à peut-être à le conscientiser comme ça avec un peu de temps et de recul. Mais ce n'est pas évident. Alors au départ, c'est vrai que ma production, j'étais plutôt en tant qu'étudiant, plutôt peintre, plutôt dans ma jeunesse, plutôt attiré par la bande dessinée, la figuration libre. Voilà, c'était aussi ma génération. Et cette peinture figurative s'est transformée vers quelque chose de plus proche de l'abstraction, qui s'est à un moment donné très vite tournée vers les questions d'art conceptuel, plutôt liées à la question du contexte, comme on a pu voir tout à l'heure. Et puis, j'étais très, alors dans les années 2000, très porté par les objets que j'allais rencontrer dans les magasins de bricolage, les supermarchés. Et je travaillais vraiment avec des objets communs, reproductibles, qui devenaient la base d'une production. Voilà, ça, c'était un peu la base de mon travail. Et petit à petit, ça s'est transformé. Les matérialités se sont développées. Il y a eu des choses que j'ai redécouvertes aussi avec le temps. Et par exemple, la matière, ma matière de prédilection avec laquelle je travaille depuis quand même plutôt une quinzaine d'années, c'est le béton. Et le béton est devenu de plus en plus important dans ma production. Et à un moment donné, a pris toute la place jusqu'à une décision en 2012 où j'ai décidé de me consacrer uniquement en réduisant ma matérialité au béton et au bois, avec un peu d'injonction de métal pour faire du béton armé, quelques structures métalliques, mais vraiment me concentrer là-dessus. Et j'ai tenu le fil pendant 8 ans que sur ces matériaux-là, pour les éprouver, pour m'éprouver aussi moi-même, pour essayer de confronter avec un minimum de moyens ma création, pour pouvoir voir jusqu'où je pouvais l'emmener. Est-ce que j'étais encore en capacité de me réinventer avec si peu de matériaux? Et en fait, les choses, c'est un parcours. Et puis à un moment donné, il y a d'autres choses qui interviennent. Et le confinement a joué aussi un autre rôle. C'est qu'il a fallu que je réinvente aussi mes modes de production parce que le béton, je ne pouvais pas m'en faire livrer ou pas comme je voulais. Donc j'ai travaillé avec d'autres matériaux qui étaient disponibles pour pouvoir continuer à avancer, à faire des choses, occuper le temps aussi, c'était aussi une question importante. Et du coup, ça a commencé à se déplacer aussi à ce moment-là. Voilà, d'où un peu les premières expérimentations avec le peu de béton qui me restait, les plaques de carton à découper des formes et à coller du béton dedans, qui a produit l'exposition chez Thomas Bernard qui s'appelait Homework. Voilà, travail à la maison, devoir à la maison. Voilà, avec des formes très ludiques qui rappellent un peu la sculpture moderne et qui me plaisent beaucoup et en fait qui sont en ce moment vraiment dans mes perspectives de développement. Voilà, donc ça s'arrête vraiment en place. Et j'ai recommencé aussi dans cette période de confinement à reproduire des sortes de collages comme un retour à la peinture, alors pas à la figuration, mais plutôt à la peinture, à la couleur, ou à des choses qui avaient quand même disparu. Et ça, c'est vraiment les contraintes du moment. Et à un moment donné, on est obligé de se réinventer si les matériaux qu'on veut exploiter disparaissent en fait, de notre giron. Alors après, c'est vrai que quand j'ai travaillé vraiment avec le béton et le bois, j'ai pu développer vraiment une écriture, quelque chose qui me portait, qui devenait un peu mon écriture personnelle, peut-être par lequel on arrivait à me reconnaître aussi, mais qui se réduisait, qui devenait peut-être un peu sèche ou un peu rigide, qui m'emmenait aussi vers une perspective particulière. Mais ça s'est arrêté avec un événement que tout le monde connaît et que tout le monde a subi. Voilà. Mais voilà, donc les choses, elles changent. À un moment donné aussi, je me suis posé la question, mais pourquoi le béton comme ça est intervenu? En fait, c'est quelque chose que j'ai tout le temps en fait connu. Les matériaux de construction, la question du chantier, en fait, était vraiment moteur à l'intérieur de mes réflexions. En tout cas, était présente, l'univers de l'atelier, de la matérialité présente. Et en fait, je me suis rappelé, c'était pas forcément au départ un bon souvenir, et ça s'est rentré un peu dans ma mythologie personnelle, on transforme aussi son histoire, hein. C'est que mes parents, très rapidement, ont acheté une ferme en Auvergne, et on a passé toute notre enfance avec, et mon adolescence avec mes frères et sœurs, à reconstruire cette maison. Enfin, c'était l'idéologie un peu 68 arne de justement d'autonomie, de pouvoir construire sa propre maison, du coup de se mettre au travail sans être professionnel. C'est un peu le do it yourself, mais en France c'est plutôt l'autoconstruction, récupérer des fermes et pouvoir un peu les réhabiliter. Et moi j'ai passé mon enfance à faire des travaux en fait. Voilà, et à monter des murs en pierre sèche, monter des parpaings, faire du béton, faire de la toiture, faire voilà, tout ce qui est tout ce dont on aurait besoin, même de l'électricité pour pouvoir construire sa propre maison. Et peut-être que ma production artistique, les savoir-être ou les savoir-faire que j'ai mis en place moi dans mes plutôt mes sculptures brutes avec le bois, le béton, en fait, ce sont des choses qui me portent ouais, réellement et que je qui font partie totalement de moi. Mmh. Voilà.
Et quand les pièces elles sont créées, est-ce que tu as une méthodologie de présentation? Est-ce que la série, la série, elle a un chemin après qui est un peu dessiné, présence en galerie, présence dans des expositions institutionnelles?
Non, alors
comment ça se passe? En catalogue peut-être?
Alors au départ, les choses elles sont de manière très empirique et expérimentale, donc je fais les choses pour moi. Mm-hmm. Et après, je les exploite comme je peux. Puis il y a des choses qui s'ouvrent, voilà. Alors, soit parce que quelqu'un d'extérieur vient à un moment donné éclairer cette production comme ça, qui est un peu invisible parce qu'on est tout le temps entouré de plein d'images, plein de matérialités, plein d'objets. Ou soit parce que moi, j'en prends la décision. À un moment donné, je me concentre, comme pour dire, j'aurais dû mettre matérialité. Je peux dire, là, je me concentre vraiment sur cette série-là parce que je sens qu'il y a quelque chose à développer. Il faut que j'aille vraiment jusqu'au bout du process pour savoir où ça peut me mener. Alors, ça mène nulle part, au moins j'aurais fait le voyage, et c'est toujours important. Et puis bon, une fois que le voyage est fini, on change de braquet, on fait un pas de côté, on change de perspective. On épuise en tout cas le projet. Ça, c'est vraiment important, c'est à chaque fois essayer d'épuiser le projet au maximum, justement pour... Alors des fois, ça rebondit, et puis des fois, ça rebondit pas du tout. Et à partir de là, je construis des sortes de narrations et des sortes d'exposition idéale, voilà. Donc j'aurais ça, comment j'ai mis en place, est-ce qu'il y a besoin de socle, comment je les présente, est-ce qu'il y a 2 pièces, 5 pièces, 40 pièces, voilà. Et un peu j'imagine un peu ce parcours là et après souvent ce sont des expositions du coup plutôt en galerie au départ, et là on réduit de manière collective avec le galeriste ou le directeur de la galerie et peut-être faire un commissaire, s'il y a un commissaire, pour que les choses soient visibles. Et là, on en discute. Voilà, et puis, je suis toujours à l'écoute. Et le but du jeu, c'est que voilà, l'exposition se tienne et me convienne totalement.
Voilà. D'accord. T'aimes bien quand il y a un commissaire? Disais que le dialogue avec la galerie, c'est quelque chose qui te nourrissait.
Ouais.
Le commissaire, c'est pareil ou...
Alors moi, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait des productions spécifiques pour des lieux. Alors, je l'ai fait, mais sur des projets qui étaient déjà en route. Donc là, il n'y avait pas vraiment de discussion avec le commissaire. En tout cas, peut-être sur la mise en espace ou sur le choix de telle ou telle pièce, mais en tout cas pas sur l'œuvre. Souvent, en fait, les expositions collectives avec un commissaire d'exposition, il vient plutôt cibler quelque chose de déjà produit. Donc, il a vu à un moment donné et lui, il sait exactement ce qu'il veut. Alors, si la pièce n'est plus disponible parce que elle est dans une collection et qu'on peut pas la ressortir, on peut réfléchir ensemble sur est-ce qu'il faut reproduire quelque chose de pas très loin ou ça, c'est possible. Voilà. Alors, ça m'arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé.
Ok. Je te coupe ou non? Tu présentes des concours, des résidences?
Non, jamais de résidence.
Ouais. Jamais de résidence.
Non.
J'imagine que tu as un emploi du temps.
Non, alors j'ai un truc que si, alors je fais des résidences, mais ce n'est pas des résidences de production. En fait, ce que j'aime bien, c'est faire des résidences en école d'art. Alors j'en ai peut-être réalisé peut-être 6. Alors je fais beaucoup de jury aussi pour les DNSEP, DNAP, ainsi de suite dans les écoles d'art. Et en fait, il m'arrive régulièrement d'être invité dans une école d'art en résidence, mais en résidence recherche, pour pouvoir. C'est un autre lieu de production, pouvoir rencontrer les équipes enseignantes, les artistes, les critiques d'art et aussi les étudiants. Donc ça, je le fais souvent. Je travaillais aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand dans une résidence qui a duré un an en partage avec un sociologue et un jardinier et une artiste performeuse. On habitait ensemble dans une maison, donc ça c'était sympa.
C'est pas un concours ça, c'est intense, ça me dit quelque chose.
Non.
À Clermont-Ferrand, il n'y avait pas un...
Alors c'est pas un concours, c'est une invitation de la direction de l'équipe de recherche et ils choisissent... c'est une coopérative de recherche, ça s'appelle ça. Voilà. Okay. Et donc moi j'ai fait la première coopérative de recherche à l'école de Clermont. On a une maison à Montferrand, une ancienne maison Michelin, juste en face du stade de rugby. Et on a accès à toute l'école, voilà, on a une obligation de présence et on est là pour monter du projet. Projet scientifique, artistique, tout ce qu'on veut. Enfin, nous, c'était un peu le but. On a fait un colloque, un bouquin, ainsi de suite. Je travaillais avec l'école des Beaux-Arts de Besançon, l'école des Beaux-Arts. Alors, je réfléchis parce qu'il ne faut pas que je mélange les jurys et les résidences. Mais sur 20 ans, j'ai dû faire 6 écoles d'art différentes.
Mais dis-moi, toi, quand tu fais des résidences comme ça, justement, où vous logez à Clermont-Ferrand et tout ça, tu viens, t'as dit que tu avais 2 enfants. Comment tu gères ça?
Et ben là, en fait, sur des résidences aussi longues, je ne le fais plus. Mais alors, mon fils était jeune, ma fille venait de naître. Et je partais 3 jours par semaine.
OK.
Voilà. Et alors, je crois qu'en plus, on avait une obligation de présence qui n'était pas forcément toutes les semaines.
OK.
Donc, il y avait assez un arrangement.
Tu jongles sur l'emploi du temps, quoi.
Ouais,
c'est ça,
exactement, oui.
Okay.
Ouais.
Parce que c'est un vrai problème.
Oui, c'est un vrai problème. Alors la question se pose moins parce que mes enfants commencent à être grands.
Ouais.
Donc les choses sont plus faciles. Voilà. Mm-hmm. Mais c'était une question assez importante à un moment donné. Oui.
Ta présence sur les réseaux, la diffusion de ton travail, c'est important. Est-ce que tu as une stratégie derrière, etc. Parce que par exemple, on parlait de l'objet livre qui emballe 20 ans de prod, etc. Il y a une stratégie derrière l'existence. Est-ce qu'avec la même idée, tu travailles ta présence et ta diffusion sur Insta, sur les réseaux, etc.
Oui, j'adore vraiment Instagram, je l'exploite réellement. J'apprécie beaucoup le médium. Et en fait, mon livre, je l'ai conçu aussi parce qu'à un moment donné, je voyais qu'il se matérialisait quelque chose dans l'Instagram, dans le menu déroulant comme ça, et qui me parlait beaucoup, et qui soit entre l'image de l'atelier, des matérialités, des sensations, des objets finis, des vues d'exposition. Et en plus, il y a un fil d'actualité où tu mets à jour quand tu veux, et puis tu peux éliminer petit à petit pour reconstruire quelque chose de plus court. Tu recrées des scénarios. C'est vraiment une mythologie construite, et en même temps, avec quelque chose d'assez instantané, en fait, voilà. C'est assez réflexif, ça reste une image. Alors, c'est l'image, c'est pas que ma production, c'est aussi ma vie d'atelier. Mmh. Alors, je montre pas tout, forcément, je sais pas, même si ma famille est dessus, j'ai qu'un Instagram. Et ça peut être, à un moment donné, des images vraiment liées à la question artistique et d'autres fois qui sont légèrement décalées. Mais on essaie de créer une image comme ça. Moi, ça me plaît aussi de travailler cette dimension-là. Et le livre est venu aussi de ça. C'est à un moment donné, il y a une stratégie parce que ça permet de faire exister, de matérialiser aussi un parcours.
Ben ouais.
Et ça, je trouve ça intéressant parce que l'œuvre d'un artiste, ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas un one-shot. Mondrian, ce n'est pas être que des carrés, c'est aussi des arbres, c'est aussi de la peinture figurative, c'est tout un parcours d'une vie. En fait, une œuvre, c'est un parcours d'une vie. Et à un moment donné, c'est l'histoire de l'art qui s'arrête sur le moment où l'artiste est d'avant-garde et a marqué sa génération. Mais le reste, c'est quand même, existe. Et peut-être que ce travail-là, moins visible, c'est 90% de la production d'un artiste. Voilà.
Est-ce que tu sens que tu as inspiré des gens? Tu le vois dans le travail des jeunes artistes?
Alors, quand c'est mes étudiants, je suis assez gêné quand même.
Ouais. Non, mais je parle pas de tes étudiants.
Ouais, ouais.
Je parle, tu vois, tu...
Oui, je sens des choses, ouais.
Tu sens des fois que t'as infusé dans des angles
du boulot. Alors, je ne sais pas comment le prendre à chaque fois. Des fois, il y a une sorte de, ça fait plaisir. Et puis, en même temps, il y a une sorte de tension quand même qui
ça,
se crée.
Ça peut te faire chier aussi.
Oui, oui, c'est très personnel, en fait. Ouais. Mais je pense que c'est un peu pour tout le monde. Et en même temps, il y a quelque chose, c'est normal à un moment donné, parce qu'on trouve, enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on a, on a trouvé un public. On se dit, voilà, il se passe quelque chose parce qu'il y a des reprises matériologiques, des formes, des intuitions qui réagissent chez d'autres. Mais à des moments, ça peut quand même être extrêmement embêtant ou ça peut, enfin, on a toujours l'impression que ça peut porter préjudice. Mais ça m'est arrivé beaucoup avec des artistes d'Amérique du Sud. Ouais. Parce que j'ai eu des expositions, notamment ma dernière exposition qui s'appelait Hard Work à la Galerie Jérôme de Noirmont. Alors, j'ai eu, étonnamment, l'exposition est à Paris. J'ai eu aucune presse parisienne, mais j'ai eu Art in America, articles dans Art News, aux États-Unis et en Amérique du Sud, avec une vraie présence médiatique. Et après, j'ai commencé à voir, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, des pièces qui auraient pu être les miennes. Alors, pas tout à fait les miennes, mais oui, il y avait quelque chose de très présent. Ouais. Oui.
Et est-ce que toi, tu sens que cette influence, tu aurais pu la recevoir aussi?
Oui, c'est possible aussi.
Et t'en as pas conscience?
Alors, il peut y avoir des choses inconscientes, ça c'est normal, puisqu'on voit quand même beaucoup de choses. Hein. On est quand même, avant d'être artiste, on est aussi un super spectateur, un regardeur. Hein. On n'est pas écrivain si on n'aime pas lire. Et c'est un peu la même histoire. Il y a des choses qui sont conscientes, parce qu'on a tous une culture historique, mais c'est toujours plus facile de se construire avec une histoire de l'art. Mais forcément, il y a des choses qu'on voit chez les autres qui sont à des moments des détails, et chez vous, ça va prendre une importance déployée, et ça va être ce détail-là qui va devenir...
Et tu essaies de t'en éloigner, ou au contraire, c'est quelque chose que tu...
Non, à des moments, je pense que c'est à saisir, mais c'est aussi l'expérimentation d'atelier et justement ce parcours, ce travail de série, peut-être, qui permet aussi de s'en échapper et du coup de trouver une histoire très, très personnelle... à l'intérieur de ça. Alors, c'est pas du... j'espère que c'est pas du copier-coller. mais ça arrive. Hein. Enfin, franchement, on le voit. Mais mais je pense que c'est normal qu'il y ait l'auto-influence entre les artistes, entre les productions passées, présentes.
Et puis consciemment et inconsciemment.
Oui, exactement. Oui. Alors, il y a des choses qui sont conscientes, ça se voit un peu trop des fois, mais il y a des choses... c'est des intuitions. On voit des fois, en regardant deux artistes différents, que l'un a attiré une intuition de l'autre.
Ouais,
et on le sait. Et des fois, on sait d'où ça vient. Une question du recul critique et du regard. Mais ça, en tant qu'artiste et spectateur, on le devine. Même au cinéma, on le devine dans tous les champs culturels.
Parlons un peu peut-être du réseautage, de ta représentation aussi, au-delà d'Instagram. Tu fais les vernissages,
Je
vais au vernissage, tu vas aux foires, t'es là, t'es présent ou
Alors, pas à l'international, il faut vraiment que j'ai une activité, une présence. À un moment donné, je bougeais tellement, je me posais la question, est-ce que ça vaut le coup de se déplacer pour quelque chose dans lequel je ne suis pas présent, où mes pièces ne sont pas présentes, ça c'est... et je le fais quand même. Je vais dans les foires, je vais faire un tour parce que je suis accompagné, parce que je vais aussi rencontrer du monde, parce que je vais croiser soit des copains artistes ou des collectionneurs ou des marchands. Et cette dimension sociale, elle est quand même assez importante. Ça fait partie du jeu. Et après, à nous de l'accepter ou pas, mais moi, j'ai une dimension sociale très, très forte, parce que j'apprécie. J'apprécie discuter, rencontrer, même si ça ne m'apporte pas forcément quelque chose professionnellement. Mais je me rends souvent dans les galeries et je partage beaucoup de relations amicales avec un grand nombre de galeries parisiennes. Je ne pourrais pas toutes vous les citer, mais je connais des gens partout, dans quasiment toutes les galeries. Donc, je connais beaucoup de directeurs de galeries, beaucoup de propriétaires de galeries, et qui sont pour la plupart, ou pour certains, devenus amis. Vraiment des amis, donc ils peuvent m'accompagner aussi sans... c'est pas parce qu'on est copains qu'on va travailler ensemble, mais ils peuvent aussi avoir des intuitions aussi pour moi, des petits mots à des moments d'encouragement aussi. Et ça, c'est quand même agréable. Des fois, sur des posts Insta, j'ai quelques galeristes qui m'envoient un petit cœur ou un petit mot en me disant « ça, c'est pas mal, ça, c'est vraiment intéressant ».
Parce que ça, c'est cette dimension-là, elle est quand même... hyper importante dans le dans le parcours d'un artiste, d'autant plus quand il est jeune, ou elle est jeune, parce que ça vient renforcer des fois des envies, ça vient accompagner tout un parcours. Et ma question, c'est un peu comment il s'est constitué un peu ce réseau ?
Ne venant pas de Paris, enfin au départ c'était vraiment en me rapprochant du magazine Mouvement par des amis. Voilà.
C'est vraiment de manière hyper organique, par connaissance de connaissance.
Alors sur le réseau parisien, c'est vraiment organique. Voilà. Après, au départ sur l'histoire familiale, j'avais déjà aussi un réseau qui avait une certaine visibilité aussi. Donc mes parents étaient issus des écoles d'art. Ont plutôt arrêté leur production artistique pour se concentrer sur l'autoconstruction, leur famille et ainsi de suite, mais aussi organiser des expositions. C'était le début, alors ça c'est hyper intéressant politiquement, c'est le début de eux, c'est vraiment le début de l'art contemporain, de l'émergence de l'art contemporain dans la sphère publique. À leur époque, le FRAC, ils sont pas là, où il commence à émerger une politique culturelle de décentralisation. Il n'y a pas de centre d'art et tous les centres d'art en France, ils sont quasiment créés tous en même temps, dans les années 70. Et au départ, ce sont des associations. Tous les centres d'art sont des associations avec souvent, la plupart du temps, à 80%, des artistes issus des écoles d'art de ces régions. Et qui, à un moment donné, il n'y a pas de lieu d'exposition pour l'art contemporain. Donc, ils vont créer leur propre lieu, au début vraiment alternatif, dans des endroits un peu improbables. Et à un moment donné, ils vont pouvoir structurer, via du financement de la mairie, de la région, quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, il y a ces centres d'art qui ont le label centre d'art, voilà, qui sont reconnus d'intérêt national et qui ont des financements publics ou du ministère de la Culture ou, à certaines fois, des financements privés. Et par exemple, mes parents avaient une association. Ils ont commencé dans cette dynamique-là d'événements épars. Là, ils habité au Mans à l'époque, dans la ville de Mans, travailler avec les 24 heures du Mans comme événement sportif international et pouvoir réagir de la création à l'intérieur de ces événements-là. Donc là, c'était tous les potes artistes de mes parents qui rentraient dans cette dynamique-là pour soit créer des expositions où eux pouvaient aussi exposer, mais aussi surtout faire des invitations sur des commissaires d'exposition. Ça n'existait pas, les commissaires d'exposition à l'époque, mais en tout cas, les critiques d'art de l'époque organisaient des expositions. Les peu de critiques d'art à l'époque organisaient des expositions et montaient des projets vraiment différents. Et je vois par exemple le CCC de Tours, qui est devenu quand même une institution en France. C'est l'époque de mes parents. C'est un festival qui est équivalent à celui de mes parents au Mans, qui s'appelle Tour Multiple. Et ce Tour Multiple devient le centre d'art CCC et qui devient maintenant le musée Olivier Debré. Voilà, il y a toute une construction. Et alors là, c'est vraiment l'exemple paradigmatique. C'est quelque chose d'associatif qui est devenu quelque chose, une institution culturelle importante. Mais la plupart des autres, là, j'avais téléphoné à un centre d'art, c'était à côté de Perpignan, je pense que c'était à Narbonne, qui était plutôt intéressé par mon travail. Il me disait, écoute, on est intéressé par ton boulot, Benjamin, mais écoute, là, on est fatigué. On va tous avoir 70, 80 piges. Il n'y a personne pour reprendre derrière nous. Le centre d'art va fermer. Exactement comme une galerie d'art. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un galeriste, il meurt souvent avec sa galerie. Alors, sauf si, comme Le Long, il arrive à produire quelque chose qui va au-delà de lui et qui va prolonger le nom dans le futur. Mais c'est extrêmement rare, en fait, ce genre d'exemple. Ben, les centres d'art, c'est exactement la même dynamique, sauf comme le CCC qui a réussi à institutionnaliser le projet. Au début, c'est quand même Alain-Julien Laferrière, tout seul, avec ses équipes, qui monte le projet de Tour Multiple, qui monte le centre d'art, qui monte le musée. Et après, lui, il peut lâcher prise parce qu'il a créé une structure. Alors, c'est vraiment incroyable, enfin, la dynamique. Mais tous ne peuvent pas réaliser un projet aussi important. Et donc, c'est comme une galerie, les choses se ferment. Voilà. Et j'en parle aussi à mes étudiants en disant... Attendez pas d'exposer dans le centre d'art, parce qu'il y a des époques, ça n'existait pas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les étudiants en art? Ils produisaient leur propre lieu. Ils créaient leur no-profit space. Ils créaient dans leur atelier des projets d'exposition. Et la dynamique artistique, elle est là aussi. Il faut réinventer. Il faut pas forcément rester. Alors moi, je suis de la génération où tout était en place aussi. Donc nous, on n'avait rien à inventer. Il y avait tout était déjà là. Et du coup, le but du jeu, c'était aussi de se rentrer dans ces réseaux-là. Mais on peut aussi le prendre de côté. On dit, toutes ces choses-là commencent à fermer. Il y a de moins en moins d'argent. Est-ce qu'on n'est pas, on peut pas être dans une dynamique différente? On fait comme dans les années 70. Ils ont construit un univers, ils ont permis à l'art contemporain de s'institutionnaliser, d'avoir une visibilité. Construisons nos propres expositions, nos propres lieux, et ainsi de suite. Je trouve que ça, vraiment, c'est la bonne dynamique à avoir, c'est un bon moteur. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et donc ces centres-là, oui, commencent à disparaître, mais on les voit tous. L'abbaye Saint-André de Meymac, par exemple, qui est une institution quand même importante, il est tenu par Caroline Bissière depuis toujours. C'est elle qui l'a créé, c'est elle qui le dirige encore. Et du coup, derrière, il y aura qui ? C'est à Meymac, hein. Qui va s'installer à Meymac ? Eux, ils avaient une maison de vacances à Meymac, juste à côté de l'abbaye. Ils ont réhabilité l'abbaye, ils ont bossé avec la région, les institutions publiques, pour pouvoir monter un projet d'envergure nationale. Et après eux, voilà. Et donc, c'est Caroline Bissière et Jean-Paul Blanchet, voilà, qui gèrent le centre. Et la plupart des centres sont gérés de la même manière. Donc, des associations. Donc, mes parents avaient cette association-là. Ils ont monté des projets. En plus, dans les années 80, c'était énormément financé par le ministère de la Culture, c'était le ministère Langue. Donc là, il y avait de l'argent, il y avait du projet, il y avait vraiment une grande dynamique. Et eux ont, dans les années 80, invité les avant-gardes. Alors, au début, c'était plutôt lié à l'art sociologique, Fred Forest, Marie-Jo Lafontaine, vraiment l'art vidéo et ainsi de suite, au sein des 24 heures pour produire des formes de production pendant 24 heures au sein du circuit. Et après, ils ont invité les débuts de la figuration libre. Donc, ils ont bossé avec Di Rosa dans les années 80, qui s'arrignent, qui ont fait venir des États-Unis, François Baron, ils créent des confrontations comme ça. Et après, ça s'est écroulé du jour au lendemain. Parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses du ministère de la Culture et donc le projet ne pouvait plus survivre. Voilà. Donc là, ils ont arrêté petit à petit et leur production artistique et leur investissement dans la création. Mm-hmm. Mais ça fait partie de la dynamique quand j'étais enfant. Hein. Moi, dans les années 80, enfin, je suis né en 77, donc voilà, j'avais 6, 7, 8, 9, 10 ans. J'étais déjà dans tous ces lieux d'exposition, de création. Ce qui m'a permis, moi, à l'âge de 6 ans, de rencontrer Kessaring, de dessiner avec lui. Voilà. Donc, d'avoir des rencontres comme ça importantes, de voir Di Rosa peindre face à moi. Donc, des événements marquants. Et qui ont tout de suite forgé mon envie de devenir artiste. Alors, plutôt tourné vers, justement, la peinture figurative, plutôt la bande dessinée. Voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler plutôt dans cette dynamique-là.
D'accord. Voilà. D'accord. Comment ça se passe, les accrochages d'une expo de toi ? C'est toi qui t'en occupes, tu laisses faire, tu le fais plus, tu le faisais.
Non, je fais tout.
Tu fais tout ?
Ouais, toujours. Avec grand plaisir, ouais. Fais mes socles, je fais tout, la peinture. S'il faut faire la lumière, je monte dans l'escabeau pour faire la lumière.
Ouais.
Il y a peut-être qu'ici, quand j'ai fait un projet juste derrière nous, là, au Centre Pompidou, j'ai organisé des performances. Au Centre Pompidou, tout est hyper construit. Donc, si on a besoin de peinture, il faut appeler le mec qui a le pinceau au dernier étage et qui descende avec le pinceau et qui vienne repeindre le petit truc qu'on pouvait faire nous-mêmes et on attend 2 heures.
Bon, ne parlons plus de ça.
Mais non, mais c'est une institution. Donc, il y a des gens qui ont des assurances pour monter en haut d'un escabeau. Et moi, je n'avais pas d'assurance pour monter en haut de l'escabeau. Voilà. Mais ça, je connais bien parce que j'ai fait les projets ici. Voilà. Mais sinon, par exemple, là, dans l'atelier, on a construit des cabanes, des murs. On est monté à 5,40 mètres de haut. On a peint. On a fait de la charpente. On a fait des étagères. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Et c'est quoi le... Attends. Est-ce qu'on t'a dit c'est quoi la pire chose qu'on t'a dit en vernissage ? Question qu'on a oublié de poser tout à l'heure, d'ailleurs.
Ah oui, il y a juste un truc, c'est assez marrant, parce que ça ne m'arrive pas qu'à moi. En fait, j'ai Benjamin Sabatier. On m'appelle souvent Sébastien. Non, je sais pas.
Alors là... Ouais. Ouais. Nous aussi,
on a fait un sans faute, mais c'est un miracle.
Ouais.
Mélange entre en fait mon prénom et mon nom. Ouais. Je sais pas, il y a un truc avec Patrick Sabatier, je ne sais pas, il y a un truc. Mais ça m'a même des collègues à qui je bosse depuis 15 ans ou des copains artistes, ils m'appellent Sébastien. Au début, je dis rien, maintenant je réponds, je fais non, moi je m'appelle Benjamin. Et en fait, ce qui arrivait souvent, c'était ah, mais j'ai une œuvre de vous, c'est des petits oiseaux. Non. Ça, c'est Lionel Sabaté. Et Lionel me dit la même chose. Il me dit, c'est un peu chiant parce que des fois, ouais, j'ai une pièce de toi. Non, moi, c'est Lionel Sabaté. Ça, c'est Benjamin Sabaté.
Ah, ouais, voilà.
C'est le seul truc, mais ça, c'est assez drôle, mais ça nous arrive à tous les deux.
Ok.
Voilà.
Ok.
On en rigole.
Mais c'est vrai, nous, enfin là, on a fait un sans faute, mais c'est moi chaque fois que je dis ton nom, j'essaie de l'avoir devant les yeux parce que je sais pas pourquoi, c'est naturellement, ouais. je fais le.
Ouais, Sébastien, c'est pas mal quand même.
Je faisais l'erreur, bon, en même temps, c'est pas. Ouais. C'est... on va aller tout doucement vers la fin. Ouais. Il est quelle heure, Lapin ?
On est bon.
Bon,
voilà. 16h30.
Est-ce que peut-être tu as une actualité personnelle à venir que tu veux nous communiquer ?
Bah, je suis en train de réfléchir sur les activités à venir. Alors, pas dans l'immédiat, il y a des projets qui vont arriver. Mm-hmm. Mais ça, pour l'instant, je n'en parle pas parce que tout n'est pas bouclé.
Fort bien. Voilà.
Et non, la dynamique, là, en ce moment, elle est plutôt dans la restructuration de, justement, des ateliers, des lieux de production. Je dois produire une sculpture pour, justement, Reynos Xipas pour l'Uruguay. Donc, je suis en train de travailler. Avant de travailler sur la pièce, j'ai trouvé l'espace parce que la sculpture a une taille minimum de 2,50 m. Et sur les derniers ateliers, c'était la porte. Enfin, les 2,50 m passaient pas la porte. Là, la porte fait 3,50 m. Moi, je devrais m'en sortir. Mais le temps de produire la pièce, il faut produire l'espace de production. Je suis là-dessus. Donc, c'est un peu un temps mort. Ça fait depuis le mois de novembre, je pense que fin novembre, que j'ai pas produit une seule pièce parce que je ne suis que sur ces dimensions factuelles. Mmh. Mais c'est aussi le moment de se réinventer aussi, de remettre en place les forces et un peu les faiblesses. Peut-être le moment de jeter certains trucs qui traînent et qui prennent de la place depuis très très longtemps. Comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu jettes des pièces ? Là, à un moment donné, il y a peut-être des choses qui vont disparaître. Mais bon,
est-ce qu'elles se transforment ? Est-ce que ça devient une table, une étagère ou une autre sculpture ?
Après, la matière première, elle est découpée, elle peut resservir. Hein.
Oui.
Bah, souvent, elle resserre pour une autre pièce quand même.
Ouais. D'accord. Si on veut te suivre sur Instagram, on va à
Benjamin Sabatier.
Voilà,
pas Sébastien, Benjamin.
Benjamin. Voilà.
Et sinon, j'ai un site web, c'est benjaminsabatier.work. Mm-hmm. Voilà, toujours lié à la question du travail. Il y a très peu d'images, mais en fait, le site internet, il me sert surtout d'archivage. C'est-à-dire que pas d'images, mais en tout cas des expositions, des publications. Ça, c'est le lieu qui permet justement de construire un peu ce qu'on appelle CV. Mais le CV, c'est aussi se souvenir de ce qu'on a fait. Et ça, c'est quand même plutôt important. Et l'Instagram, c'est le seul endroit où on peut voir aussi des images au quotidien, au jour le jour, ou de ce que je suis en train de faire. Alors, soit repeindre un mur, ou soit produire quelque chose. Et ça m'arrive souvent aussi de montrer des pièces qui sont pas encore exposées ou de retrouver des pièces anciennes que je déstocke parce que je range ou parce qu'on me les demande et du coup de aussi les remettre en avant. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas forcément, enfin, c'est toujours une dimension de communication, mais moi aussi je regarde mon Instagram et aussi ça me fait réagir en me disant, tiens, j'ai peut-être oublié cette chose-là, je l'ai pas développée, peut-être qu'il serait intéressant quand même de repartir dessus. Et c'est quand même garder à l'esprit. C'est comme dans l'atelier, toujours avoir des images, des œuvres passées. Voilà, mais j'ai plein d'images collées. Alors, j'ai plein de croquis collés, de choses que je devrais faire ou que je ne fais pas. En tout cas, des choses en latence ou en perspective. Mais il y a des images, des anciennes pièces. Comme ça, je les ai toujours sous le regard. Et comme vous savez, quand vous êtes chez vous, à un moment donné, vous les oubliez. Parce que ça fait partie de votre quotidien, mais ça construit aussi des interactions. Avec peut-être d'autres œuvres. Alors souvent, des œuvres, c'est deux dessins qui, à un moment donné, sont répétitifs et viennent peut-être, à un moment donné, se fondre l'un dans l'autre et créent, en tout cas, l'envie de faire quelque chose. Et après, la production transforme aussi le projet ou l'idée qu'on avait en tête vers quelque chose d'autre. Voilà. C'est un peu dans cet esprit-là que je travaille. D'ailleurs, le bouquin, il est fait un peu de cette manière-là. Ça veut dire que toutes les œuvres sont des œuvres exposées plutôt en galerie, qui sont sur fond blanc, sur des fonds neutres, dans des white cubes. Et on a fait un travail avec les graphistes Telmo, avec Jonathan Jens, qui est photographe, qui vient avec son flash, vient cramer les images. Et du coup, lui, il a vraiment pris des images d'atelier. Il y a une vraie différence entre le lieu de production, de vie où il se passe plein de choses, des choses personnelles et collectives, et puis l'œuvre qui d'un coup devient complètement, enfin, isolée, peu propre, un peu designée par le cadre de l'espace blanc.
Voilà. Ah, le livre est très beau.
Ouais.
Voilà. Aux éditions Anamosa, voilà, est disponible dans toutes les librairies.
Au sur commande. Avec le travail de design graphique d'Elmo.
Ah oui, avec le travail design graphique d'Elmo. Voilà.
Ben, cool.
Eh bien, Benjamin, merci beaucoup.
Avec plaisir. C'était un plaisir.
À bientôt.
Au revoir.
Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les travaux de Benjamin sur son site benjaminsabatier.work ainsi que sur son Instagram @benjaminsabatier. Merci beaucoup au Centre Pompidou qui nous accueille et nous soutient pour le projet Sans Titre. Merci à Cyril et son équipe à la régie. Vous pourrez retrouver toutes les informations de Sans Titre sur Instagram @sanstitre.cast. Merci beaucoup à Olivier Schloberg pour le générique.